Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
De Michel Charon.
Bonjour.
Et de Linda René.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « L'ego ne doit jamais être détruit ». En effet, c'est quelque chose qui n'est pas très commun parce qu'aujourd'hui, quand on dit avoir de l'ego, c'est toujours quelque chose de péjoratif, comme quelque chose de négatif. D'avoir de l'ego, c'est de prendre trop de place, d'être suffisant, etc. Mais moi, je pense que l'éveil passe par la personne. Contrairement à tous les hindouistes, bouddhistes, transcendantalistes qui, eux, vont tuer le mental, fermer le mental pour être capable de passer au niveau de l'esprit. Moi, je crois qu'il faut faire passer ça par la personne, par l'ego. Et donc, un ego en santé est nécessaire, en tout cas en Occident. Et bon, c'est une opinion qui peut être partagée. On va en discuter aujourd'hui. Avez-vous quelque chose à dire, mes amis, pour partir l'émission?
Moi, j'aurais quelque chose à dire. En fait, mon expérience à moi, ou ce que je crois, qui peut être subjectif, c'est que l'ego a besoin de son carré de sable. Ce que ça veut dire, c'est que on a besoin que le « je » puisse s'exprimer. Par exemple, dire « non, ça ne passe pas » ou prendre parti pour soi. On peut être dans une situation où on se sent parfois abusé, puis là, il faut réagir, puis se dire « non, je suis pas d'accord ». Donc, c'est cet espace-là qui, en quelque part, parce qu'il y a des aspects négatifs de l'ego, mais ça, c'est un des aspects positifs qui peut nous protéger, un peu comme... on a besoin d'un écran solaire. On a besoin de quelque chose. Mais je dirais, je ne vais pas m'étendre tout là-dessus, mais que l'ego devrait être transparent, dans le sens que ce n'est pas notre identité profonde et absolue. C'est une partie, comme on a besoin de vêtements, je préfère en tout cas. Les naturistes ne seraient peut-être pas d'accord avec moi, mais j'aime mieux avoir des vêtements que me promener nu. Donc, j'aime mieux avoir une identité. L'ego, c'est quelque part l'identité. Je préfère ça, mais je peux en avoir plus qu'une, par exemple, sans être confuse.
Moi, je dirais, l'ego, depuis quelque temps, on en parle beaucoup. En tout cas, moi, j'en entends parler beaucoup depuis quelque temps. J'ai pris plusieurs années à construire mon ego, ma personnalité. Hein, c'est ça aussi, l'ego, c'est la personnalité. C'est bien évident que ça ne prendra pas... ça va prendre du temps aussi avant de laisser l'ego de côté. Ma personnalité, ça fait partie de ma vie. Dès qu'on entre en scène, en vie, dans la matière, il y a l'ego. Et après ça, la personnalité qui se mêle là-dedans, on construit notre personnalité, c'est de l'ego. Là où l'ego vient me jouer des tours, c'est justement quand le côté spirituel... m'habite, quand je veux vivre ma spiritualité, là, l'ego vient me nuire. Parce que, bien, c'est là où il y a l'attaque, là où il y a, je rentre dans de la compétition, là où je rentre dans l'accusation, tout ça, eh bien, évidemment que là, je rentre dans de la souffrance. Il y a de la souffrance à ce moment-là. Et à ce moment-là, là, la personnalité, tout ça, ça ne me sert plus. Mais dans d'autres domaines, la personnalité va continuer de me servir. Par exemple, dans mon travail, la personnalité, l'ego va continuer de me servir. Alors, je peux pas lâcher complètement mon ego. J'ai besoin de mon ego, elle va me servir. Mais enfin, j'y reviendrai plus tard. Ça, c'est la partie 1 pour laquelle je voulais introduire là,
C'est bien, ça va dans le sens de l'émission.
Mon idée.
Que le Lego ne doit pas être détruit.
Mm-hmm. Moi, de mon côté, si on voit ça, moi je vois ça comme je suis un être éternel. Donc, éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et ça ne s'en va pas nulle part. Il n'y a pas d'endroit à aller. Donc, sur cette réalité-là, terrestre, on fonctionne sur une opération, sur un système tridimensionnel, donc physique et matériel. Donc, on est encapsulé, on a un costume de chair qui est notre véhicule sur cette réalité-là. Et qu'est-ce qui l'anime? C'est cet être éternel-là que je parle. Et donc, on est individualisé, on peut pas... Tu sais, c'est le yin et le yang encore, c'est d'un côté, tu as l'individu et tu as l'universalité des choses, dépendant de quel côté qu'on opère. Alors, dans le physique, c'est sûr, on a une personnalité, on a un travail, on interagit avec des gens, d'autres individus, tout ça, et ça a différentes ramifications, etc., etc. Fait que ça, c'est un côté de la question. Mais l'autre côté, c'est la vraie nature de qui on est dans ce voyage que je perçois et que j'expérimente. J'expérimente une vie, j'expérimente des sentiments, des vibrations dans le véhicule que je... Donc, j'ai besoin d'un corps en santé, j'ai besoin d'un corps qui va bien, je préfère un endroit, un environnement heureux. J'aime pas être dans une pauvreté qui me donne des problèmes puis des maux, puis c'est normal. Je préfère être riche et en santé que pauvre et malade, comme dirait Yvon Deschamps. Mais ceci étant dit, ce n'est que cette dimension physique des choses, ça n'a pas rapport à l'aspect éternel de qui je suis. Donc, les deux, c'est une danse, c'est un tango entre le relatif et l'absolu, et un voyage, et c'est un voyage fascinant.
L'ego, c'est un peu c'est la limite, je pense que c'est notre partie, c'est ce qui nous donne du caractère. Mais c'est à mon avis, c'est pour ça que c'est négatif dans l'Occident, parce que quelqu'un qui a du caractère, qui prend sa place, qui ose être libre, c'est pas bien vu. Il faut être un mouton, il faut marcher dans le sens de tout le monde. Et si tu sors, et si tu as du caractère, donc c'est négatif.
Mais tu fais des vagues.
Au contraire, c'est plutôt cette idée que je crois qu'il faut pas le tuer. Il faut l'arnacher, un peu comme un cheval sauvage. Si tu le tues, le cheval, mais OK, tu l'as tué, tu peux rien faire avec ce cheval-là. Mais si tu l'arnaches, si tu le domptes, si tu l'assouplis, il va te servir. Il va te permettre d'aller plus loin encore que tu avais pu sans lui. Donc, moi, je vois un peu l'ego comme ça, c'est-à-dire un moyen de se propulser. Et bien sûr, j'ai oscillé à un certain moment parce que dans mes recherches, quand j'étais plus jeune, je suis tombé dans le yoga, dans l'hindouisme, etc. Et puis ça me disait, tu le mental, détache-toi de la réalité qui est une illusion et ne fais plus l'amour avec ta femme, etc. Blablabla, la sexualité, c'est pas bon. Et tout ça m'a amené à être trop détaché et à un point, c'est devenu très dangereux. Mais par contre, j'avais en moi quelque chose une alarme qui me disait non, c'est pas vraiment comme ça. Ça peut fonctionner, à mon avis, pour un oriental.
Un hindou.
Parce que oui, ça fait partie de sa culture. Mais pour un occidental où l'individu est au centre, il me semble pas que haïr l'ego ou le tuer, c'est bon.
Mais dans la vision taoïste, c'est plus... il n'y a jamais d'extrême là-dedans. C'est les deux, tu sais, il faut que tu danses avec les deux côtés de la médaille. C'est toujours les deux côtés de la médaille. Fait que si tu détruis un, tu vas te mettre dans un problème. Donc, pour moi, le chemin très austère de l'hindouisme n'est vraiment pas mon chemin pour moi. C'est plutôt la vie, c'est plutôt exprimer tout. Il y a une gérance d'énergie qui rentre en ligne de compte, cependant. Il y a certaines pratiques, moi, que j'explore qui me sont très bénéfiques, mais c'est individuel là-dessus. Mais dans l'ensemble, écoute, il n'y a pas d'autre planète où tu peux manger du chocolat. Fait que c'est bon de vivre, tu sais, puis d'être dans le vivant, tu sais, dans le réel, et puis d'expérimenter ces choses-là. Sans oublier que qu'est-ce qui est physique, c'est temporaire.
Moi, je vois plutôt l'ego... de détruire l'ego pour ne pas souffrir l'ego, comme par exemple rentrer, tu sais, quand on rentre l'égoïsme ou tu sais, comme rentrer en compétition avec les autres ou vouloir avoir raison ou se sentir ben, attaquer, comme je disais tantôt, ou par exemple, tu t'en vas en auto, puis tu klaxonnes parce que l'autre t'a coupé, puis tu veux lui montrer qu'il y a tort de t'avoir coupé, puis ça, c'est pour moi... Là, tu rentres dans une espèce de stress, puis ça, ça naît de l'ego, là, ou que tu passes avec ta BM, puis tu veux lui montrer qu'elle va bien, puis ça, c'est de l'ego qui fait souffrir. Tu sais, l'ego, c'est beaucoup de choses, là, mais entre autres, ça, cet ego-là qu'il faut faire mourir, je pense qu'il faut tuer.
Tu veux le tuer?
Ben oui, je veux tuer cet égo-là. Elle me fait souffrir, cet égo-là. Le paraître, le vouloir avoir c'est raison, le vouloir, tu sais, à tout prix, vouloir montrer que j'existe, crier que je suis là, l'ego malade, hein, qu'on appelle l'ego malade, c'est cet ego-là qui me fait souffrir.
Et Linda, tu peux réagir à ça?
Bien, c'est parce que quand
Michel
dit on doit le détruire, ce qui est le fun d'évoluer dans le même corps, c'est de voir parfois qu'on a déjà été à un endroit puis on est rendu ailleurs. Dans mon histoire de vie, j'ai vécu peu de reconnaissance dans mon histoire de famille et tout ça. Et évidemment, il y avait comme un cri en dedans pour être reconnu.
Mais gars, garde ton idée parce qu'il faut qu'on passe à une pause musicale. On va vous laisser avec la chronique de Kautar qui s'appelle « La quête du bonheur ». Puis on revient après la pause avec ce thème « L'ego ne doit jamais être détruit ».
I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of
greed. Salut tout le monde, ici Kata cette fille avec vous pour une nouvelle chronique. On parlera aujourd'hui du bonheur lié à l'amour. Plusieurs pensent que l'amour est une chose essentielle dans la vie pour trouver le bonheur, tandis que d'autres pensent qu'il faut plutôt trouver le bonheur seul et ensuite trouver la bonne personne pour partager ce bonheur avec. Tout d'abord, le bonheur doit essentiellement venir de l'intérieur de la personne. Il faut savoir profiter de chaque instant, même si vous vous retrouvez seul. Avoir une satisfaction personnelle et pouvoir être indépendant sans construire sa vie autour d'une autre personne. Le moment que ces étapes seront franchies et que vous avez réussi à trouver le bonheur seul, vous pouvez vous consacrer à l'être aimé. Créez votre propre petit univers et laissez l'autre personne s'y intéresser. Elle doit aimer l'être que vous êtes avant tout. Elle doit aimer vos qualités ainsi que vos défauts. Et si vous avez réussi à faire partie de ceux qui ont trouvé l'être aimé et qui ont réussi à la combler et à partager ce bonheur avec elle, écoutez les conseils qui suivent pour rendre ce bonheur, disons, éternel. La meilleure chose pour faire durer votre couple, c'est d'éliminer les ennemis de l'amour. Par exemple, le manque d'attention, la routine, l'argent, etc. Vous devez toujours trouver un moyen pour casser la routine. Pourquoi pas prendre le café du matin sur la terrasse au lieu de la salle à manger, ou regarder des films tard le soir et s'endormir au salon sur les divans. Deuxièmement, vous ne devrez pas avoir honte de parler de l'argent ensemble. Votre vie est devenue partagée, alors vos dépenses le seront également. Trouvez la solution sur vos budgets et achats dès le début de votre couple pour ne pas avoir de problèmes par la suite. En troisième lieu, ne jamais négliger le manque de communication. Si vous n'aimez pas quelque chose, dites-le directement à l'autre personne et elle aussi se sentira à l'aise de parler de ce qu'elle n'aime pas avec vous aussi. En conclusion, il n'y a pas de règle précise pour aimer une personne. Faites part à votre imagination et laissez-vous transporter par la magie de l'amour. Et n'oubliez pas, pensez à votre propre bonheur, mais celui de l'être aimé doit être indispensable au vôtre. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle chronique et vous pouvez me communiquer en tout temps sur le site de l'émission proposurlebonheur.com. Bonne semaine! So they dug your grave in the masquerade. Will come calling out at the mess you made. Don't wanna.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « L'ego ne doit jamais être détruit ». Alors, on va revenir à cette tranche de vie. Linda, tu réagissais à ce que Michel vient de dire et tu nous racontais un peu de ton histoire.
Bien, en fait, ce que je voulais dire, parce que... Qu'est-ce que c'est ton nom?
Michel.
Michel parlait détruit. Et puis, quand je disais que j'avais eu peu de reconnaissance, c'est sûr qu'à un moment donné, je voulais m'affirmer, puis il y avait quelque chose de dur en moi, quelque chose qui avait souffert beaucoup. Et puis, je ne peux pas raconter toutes les étapes, mais maintenant, je dirais que je suis arrivée à laisser respirer mon être véritable. Moi, je suis plus comme si j'y ai donné un masque à oxygène, parce que pauvre lui, là, il suffoquait. Tu sais? Alors, on a besoin d'air. Peut-être que l'ego, moi, la partie saine de l'ego, là, c'est le « je suis ». C'est le « je suis », on pourrait le « I am ». Tu sais, c'est comme... Et c'est drôle que ce soir, je sois dans cette émission, parce que toute la semaine, ça me disait « c'est important d'être qui on est ». Ça donne vraiment du sens ou de la saveur à la vie d'être qui on est. Puis être qui on est, c'est se laisser être. C'est comme, c'est très subtil, c'est innommable à quelque part. Tu peux avoir des opinions. Et puis, moi, je dirais... de ne pas se laisser impressionner par les gens. C'est peut-être une façon de dire que l'ego ne va pas me... Je vais pas entrer en combat avec l'ego. Je vais plutôt me laisser être qui je suis, par exemple.
Tu sais, l'ego a été amené beaucoup par Carl Jung, par Freud. Mm-hmm. Donc, c'est dans un contexte psychoanalytique, dans un contexte de maladie mentale. Et donc, à partir de là... Tout l'idée de l'ego comme étant négatif, préjugé, qu'il faut le tuer, à mon avis, vient de cette idée-là, que l'ego, c'est l'ombre. Alors qu'en réalité, je veux dire, la symbolique est très différente dans l'Occident et en Orient. Par exemple, ici, le dragon est quelque chose de négatif. Il faut tuer le dragon. Dans les films, c'est toujours le méchant, le dragon. Alors que si tu vas dans les cultures orientales, le dragon est un symbole d'abondance.
De puissance.
Mm-hmm. Lorsque quelqu'un meurt, ici, on s'habille en noir. Alors que quand on est en Orient, on s'habille en blanc. On se marie en noir. Tout est comme inversé. Le yin, le yang dont tu parlais tantôt, Robert.
La polarité.
Et donc, à mon avis, il faut simplement savoir où tu es. Moi, je suis en Occident, donc c'est sûr que si j'ai des méthodes orientales pour atteindre l'éveil, pour atteindre le bien-être, mais je suis un peu à contre-courant de la vibration dans laquelle je suis. Et c'est pour ça que moi, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Mais je reste encore avec une teinte d'orientalisme dans ma philosophie, parce qu'il y a des belles choses. Mais la base de ma pratique, moi, elle est occidentale. La philosophie, tout ce qui est basé sur le questionnement, le qui suis-je. Donc, le jeu est très, très important. Donc, si, par exemple, comme toi, tu vas tuer une partie de toi-même, Michel, cette partie va toujours revenir au galop.
Oui.
Et moi, je propose plutôt de l'accepter, de l'accueillir. Et le gros méchant en toi, ben, tu l'accueilles. Tu lui dis « OK, je t'appuie. Je te bénis. » Et c'est ce qui peut amener à la paix.
Eh bien, on parle de choses très, d'une manière très analytique et mentale dans un sens. Moi, qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand on parle de peut-être de regarder un petit peu plus le côté oriental dans le sens chinois, de la tradition chinoise, du yin, du yang, ces choses-là? C'est plutôt du côté énergétique. Donc, ça n'a pas de place où ce qu'on parle. On parle pas de... On parle pas de choses conceptuelles. On parle d'énergie comme un vent doux qui circule dans le corps et puis que je sens se déplacer et qui m'amène à une autre place. On parle de ce genre d'expérience viscérale à l'interne. On parle pas de le « je suis intussusceptible », des choses comme ça qui sont... peut-être important dans le contexte où on en parle, dans un cercle philosophique, etc., qui est fascinant, mais qui demeure des concepts, des illustrations, parce que c'est très difficile de communiquer avec des mots, des choses, des choses très fortes pour tout le monde et d'une manière universelle. Tu sais, c'est, à part de dire un 2x4 en chaîne, tu sais, c'est quelque chose de pas mal, tout le monde peut ça être d'accord dans leur tête, c'est quoi? Le reste, les mots sont très décevants, dans le sens qu'ils sont difficiles à mettre que tout le monde ait la même image dans la tête quand tu parles des choses comme ça. Alors, donc, c'est fascinant, et puis j'adore les mots, j'adore la philosophie, tout ça. Cependant, je crois, en fin de compte, à quelque chose qui est plus du niveau énergétique, du niveau de quelque chose que je ressens dans le corps, que de quelque chose que je vais penser en concept. Ceci étant dit, je suis cette personne qui expérimente ces choses-là, et j'aime l'expérimenter pour le vrai. Autrement dit, j'aime la physicalité de la vie, j'aime l'énergie subtile de la vie, je fais une danse avec ça, c'est ça.
Et selon le cours en miracle, l'ego serait la séparation d'avec Dieu. Hein? Si on suit le cours en miracle, l'ego, il n'aime pas beaucoup l'ego, le cours en miracle. Toutes les leçons du cours en miracle nous disent que l'ego, c'est le sentiment d'être séparé de Dieu. Quand on est avec Dieu, l'ego n'existe plus.
C'est ça, là, une tonalité religieuse encore qui est normale, parce que ça vient des États-Unis, ça.
Oui, mais de toute façon, moi, je parlais de l'hindouisme, mais tantôt, mais même le christianisme, je veux dire, on regarde les symboles primordiaux, t'as Adam et Ève qui vivent dans un paradis indifférencié, qui n'ont pas de personnalité, puis là, tout d'un coup, ils décident de s'affirmer en mangeant la pomme, et boum, c'est la chute de l'homme sur la terre et l'ego. Et c'est ça que ça représente. Pour l'Église, tout être qui est libre n'est pas quelque chose de positif, parce que l'Église n'est pas là pour nous aider. Elle est là pour nous asservir, pour nous utiliser. C'est une mafia. Je ne vois aucune sagesse, moi, dans les religions. Je la vois dans les branches mystiques, dans le soufisme, la cabale, le mysticisme. Oui, là, tu as des petits groupes de gens qui s'entraident avec des pratiques pour atteindre l'éveil, mais l'Église est une partie du gouvernement. Elle est partie du problème présentement. Donc, c'est sûr que si des gens ils sont chrétiens à la base et qui ont une philosophie chrétienne, ils vont amener cette idée que la personne n'est qu'une créature de Dieu. Et c'est le gros problème, à mon avis. Je suis Dieu. Je ne vais pas accepter une autorité souveraine extérieure à moi. Et c'est ça, les chrétiens. Les chrétiens croient en Dieu. Tu demandes à un chrétien, est-ce que tu crois à Dieu? Il va dire oui, oui. Tu lui demandes, est-ce que Dieu est tout? Oui, oui, oui. Mais est-ce que tu es Dieu? Non. Non, mais tu vois qu'il y a comme comme un problème de dialectique.
Comment
pourrait-tu? The Course in Miracles, on croit qu'on est Dieu. On est tout. On est un tout. The Course in Miracles, dans les études de Course in Miracles, on dit qu'on est un tout. C'est un tout. Et c'est la division qui fait qu'on devient des égaux. C'est la division. Quand on se sent divisé.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Oui, vas-y.
OK. Parce que moi, j'ai fait l'école de Byron Katie, puis dans cette école-là de work, puis ben, je l'ai rencontrée, j'ai passé plusieurs jours avec elle. Et puis, c'est quelqu'un qui, je crois, a transcendé l'ego, ça paraît, ça se sent. Et puis, elle a une énergie assez, vraiment, une grande énergie. Et pour moi, quand on parle « je suis avec Dieu » ou « je suis séparé de Dieu », c'est une illusion du mental. Tu ne peux pas être séparé. Tu vas être séparé si ton mental est très fort, si tu es quelqu'un qui marche avec beaucoup de concepts, si tu réfléchis, puis tu compartimentes les choses. Mais qu'est-ce que je connais? Des gens qui ont transcendé l'ego, tu ne peux pas le détruire. Ils vont toujours dire, tu ne peux pas dynamiter le mental. Si tu essayes de faire ça, tu vas souffrir beaucoup ou tu vas devenir fou. Tu ne peux pas faire ça. Mais quand on arrive à respirer, quelque chose que je conseille aux gens, ou je devrais dire davantage, c'est pratiquer le silence intérieur. Quand le discours, le babillage du mental devient fort, puis je ne veux pas dire aux gens de devenir des fantômes, ce n'est pas ça du tout, mais pratiquer ce vide-là, c'est se donner de l'espace en dedans pour que l'être véritable puisse s'épanouir, rayonner. Et loin de devenir, comment je dirais, quelqu'un d'influençable. La religion, personnellement, moi, je pense que c'est assez dépassé, là. En tout cas, ici, on a accès à plusieurs... Et puis, c'est d'être connecté à la source de la vie. Puis ça, c'est un ressenti. Ça se passe... C'est sûr qu'il y a des pensées, là, mais je veux dire, c'est plutôt un ressenti, comme l'ouverture du cœur. C'est mon expérience. Puis l'ego, ben, ça peut être, par exemple, ben, j'aimerais avoir un bureau là, mais peut-être pas là. Tu vois, il y a comme quelque chose qui dit, ouais, je me sens mieux dans mon élément, à cet endroit-là, avec ces gens-là.
Et on va faire une pause avec une chanson de Indila qui s'appelle Ego. Et nous allons revenir après avec ce thème « L'ego ne doit jamais être détruit ». Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « L'ego ne doit jamais être détruit ». Pour moi, l'ego est comme une sorte de cécité au sein du voir. Un peu comme notre œil, par exemple, il y a un point noir qui ne voit rien. C'est l'endroit où il y a le nerf et où un angle mort un peu. On a une partie de nous qu'on n'est pas capable de voir. Et donc, c'est ce qu'on a fini par appeler en psychologie l'ombre. Mais pour moi, lorsque tu vis dans la conscience, il n'y a pas d'ombre. Quand on me dit « tu as une ombre, ton ombre », j'ai généralement tendance à bafouer cette personne en lui disant « peut-être que toi, tu as une ombre, mais impose pas ton ombre sur la mienne. Je vis dans la conscience, je regarde. » Et mon angle mort, il est important. Et si je suis pas capable de voir, moi, je m'organise pour avoir des gens qui vont m'aider à le voir. Par exemple, j'ai beaucoup de médiums autour de moi. Donc, quand un médium vient à moi et quand je sens que c'est vraiment quelqu'un qui est très, très fort, je vais lui dire, tu sais, moi, je vois très clair ma vie. J'ai pas vraiment besoin d'aide à ce niveau-là, mais je sais que j'ai un angle mort. Qu'est-ce que tu vois? Quel est mon angle mort? Et là, ils vont me dire des choses incroyables. Et à mon avis, c'est cette partie de moi qui résiste. Tu sais, l'ego, c'est cette partie qui résiste, qui va dire non. Non, je veux pas, je veux ça, je. Mais peut-être que des fois, l'ego oublie le « suis ». L'ego « je suis ». Dans le « je suis », on est plutôt dans la conscience. Mais quand on est juste « je », et ça peut poser un problème. Et le danger, je trouve, présentement, c'est que les gens ne font pas la différence entre la centration et l'égoïsme. Quelqu'un qui est centré peut passer pour un égoïste pour quelqu'un qui est au premier niveau parce qu'il est centré sur lui-même, il est centré sur son être. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Les gens, des fois, vont me dire « tu es égoïste ». Mais non, je vais dire « je suis centré ». Je suis à l'écoute.
Est-ce que je peux apporter une petite nuance?
Oui.
Moi, je dirais, il est centré en lui-même. Plus, c'est comment je le phraserais. Parce que centré en soi, pour moi, parce que je le vis, il y a comme un espace en moi qui est très sécurisant, qui est vrai, qui est authentique, profondément authentique, où il n'y a pas de combat. Et ça, pour moi, c'est le « je suis » que je veux. Je ne sais pas si je le veux, mais en tout cas, ça devient très vivant. Et c'est ça, j'aime me sentir vivant. C'est un très bon feeling.
Quand on parle de « je suis », ça me rappelle une méditation que je fais, une méditation spécifique là, avec un pattern de respiration particulier. Mais ça consiste à faire un échange entre l'inspiration et l'expiration, ou dans le mouvement de l'inspiration, et puis ça va être révélateur peut-être d'autres choses, là, mais dans le mouvement de l'inspiration, la pensée que j'anime avec ça, ou l'intention, c'est « je suis ». Je suis. Et dans mon expiration, c'est « nous sommes ». Qu'est-ce que ça implique dans cette perspective-là? C'est que je suis individuel, mais nous sommes universels. Ça implique que dans chacun des contenants, dans chacun de ces costumes de chair, je retrouve l'essence, une essence similaire à la mienne, individualisée pour le plaisir d'explorer individuellement, chacun à sa manière, cette réalité tridimensionnelle dans le cas de la Terre. Mais c'est ça qui est la merveille là-dedans, c'est que ça donne des permutations, des combinaisons, du jazz fascinant. Et c'est ça qui est le plaisir dans tout ça. Mais c'est cette balance. Je suis, nous sommes. Je suis, nous sommes. C'est important d'avoir un « je suis » en santé pour que nous puissions « nous sommes » de célébrer « nous sommes » quand on est en santé. Je suis. Tu ne peux pas célébrer beaucoup si tu te fouettes et tu te flagelles et d'autres approches semblables pour abattre ta personnalité, ton ego et tout ça. Et donc, qu'est-ce que Nicolas dit? Je me centre. Oui, c'est important dans le sens qu'il faut se rappeler là de nos balises, de nos frontières là, en termes de « c'est bien pour toi, je suis ce chemin-là si tu le désires, et vas-y avec paix et avec succès, mais ce n'est pas le mien, je ne le partage pas et je dois faire en sorte que je gère qu'est-ce qui est mien, puis tu gères ce qui est tien, dans ce sens-là. »
Mais moi, je trouve que c'est facile d'être centré sur soi parce qu'on a appris, depuis qu'on est petit, je veux dire, on s'occupe de son petit soi, c'est beaucoup plus difficile, je pense, d'ouvrir, puis de regarder, puis d'observer ce qui se passe autour de soi. Et ça, c'est un défi pour moi, de m'ouvrir aux autres, de regarder ce qui se passe autour de moi. Parce que c'est facile de s'occuper de son petit soi, puis d'être dans son petit soi. Mais c'est pas mal plus difficile, je pense, d'observer. Moi, je me mets au défi souvent de regarder, d'observer, de voir un peu ce que les autres, de m'imaginer un peu ce que les autres vivent. Ça, je trouve ça agréable aussi. C'est bien d'être centré sur moi, tout ça, mais c'est beaucoup plus agréable aussi de m'ouvrir à l'autre.
C'est ce que je disais tantôt, les gens confondent. Parce que là, je pense que tu confonds la centration telle que je la conçois et l'égoïsme. L'égoïsme, c'est on est dans une société extrêmement individualiste.
C'est ce que
Donc, les gens sont égoïstes. Ils sont centrés sur la personne. Quand moi, je dis que je suis centré, je ne suis pas centré sur Nicolas Lehoux, je suis centré sur mon être. Mon être me parle. Mon être me dit, fais ça, ne fais pas ça, va là, fais ci, pense à ça. Et j'écoute, je suis à l'écoute, je note mes rêves, je suis à l'écoute quand un médium vient me parler, il me dit des choses et je fais la part des choses.
Ton côté intuitif, est-ce que c'est ça que tu veux dire?
C'est ça, la centration ressemble vraiment à l'égoïsme pour quelqu'un qui n'a pas développé la capacité de voir. C'est-à-dire qu'on va me dire, ah, tu penses toujours à toi, mais oui, si je veux penser à l'autre, il faut que je pense à moi très bien. On revient toujours avec cette image dans un avion que s'il y a un problème, mets le masque sur toi avant de le mettre sur ton enfant. Et puis, pense bien à toi, aime-toi bien. Moi, quand par exemple, je demande à une femme, quand elle me dit je t'aime, je vais lui demander, est-ce que tu t'aimes? Et si elle me répond non, mais je veux dire, permets-moi de douter que tu m'aimes. Je vois que tu veux m'aimer, mais est-ce que si tu ne t'aimes pas toi en premier, tu ne peux pas m'aimer? En tout cas, tu ne peux pas bien m'aimer. Mm-hmm. Puis mon expérience m'a toujours ramené vers ça. Quelqu'un qui n'est pas en amour avec lui-même, il va se perdre en l'autre. Et à un point qu'il va, il va aimer l'autre, mais d'une manière jalouse, d'une manière possessive, mm-hmm. et dépendante. Et ça amène à les émotions.
Moi, j'ai souffert de phobie sociale. Et puis j'ai fait un exercice à un moment donné parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est moi qui vais regarder tout le monde. Et depuis ce temps-là, je pense que c'est ce que je fais. Je regarde les gens. Au lieu de penser que tout le monde est centré sur moi, je me mets à regarder les gens. Et je n'ai plus de phobie sociale.
Mais peut-être que les gens te regardaient quand même, pour le dire. T'es vraiment une belle femme. Hein?
Merci.
Est-ce que je peux ajouter un petit commentaire?
Oui.
Mais là, je vais le dire en anglais, mais après ça, je vais le traduire. Moi, je suis en programmation. Parmi les formations que j'ai prises, il y en avait une en programmation neurolinguistique et un des auteurs importants qui a écrit beaucoup s'appelle Robert Diltz. Et Robert Diltz disait en anglais, « To be centered is the opposite of being self-centered. » Alors, c'est pour ça que je trouve ça important de le dire, cette nuance. Mm-hmm. Moi, je me sens de plus en plus centrée. Et ça me donne un équilibre entre moi et les autres. Alors, c'est pas comme si je cherche l'attention ou j'en donne pas, ou j'en donne beaucoup. Il n'y a pas de deux. Je suis pas deux, je suis avec les autres. Puis quand je suis avec moi, ben je suis avec moi. Puis les mots ne peuvent pas toujours traduire, hein. C'est un état. Et puis, pour moi, c'est ça, quand il avait dit ça, « To be centered is the opposite of self-centered », je le sens, c'est quelque chose que je sens. C'est un état à découvrir, à vivre. Apprendre à s'habiter, puis à laisser fleurir en dedans de soi. Puis, je vais juste le dire parce que c'est drôle, cette semaine, j'étais rendu que je chantais la chanson de Jerry Boulet, tu sais, avec les yeux du cœur. C'est drôle, je trouve ça drôle. Puis je me disais, je chantais ça tout fort. Mettons, je vais dans un magasin, puis je chante ça, tu sais. Puis là, je me disais, hein, que c'est drôle. Tu sais, comme si l'amour fleurissait en moi, comme si je chantais l'amour en moi. Puis je me disais, c'est drôle, c'est donc des mots simples qu'il disait. Mais quand on le vit, c'est tellement riche, c'est tout sauf superficiel.
Il y a beaucoup de choses à dire sur le cœur, parce que c'est pas juste une pompe, c'est pas juste un dessin ou un symbole à la Saint-Valentin. C'est une pompe électromagnétique, c'est un générateur d'énergie, et c'est vraiment le vrai cerveau de l'être pour moi. Mais c'est un autre sujet, puis on pourra en parler éventuellement.
Oui, c'est vrai que le cœur, je le crois de plus en plus... Il y a quelqu'un d'autre qui parlait de ça, puis je l'ai entendu souvent, que quelqu'un qui a le cœur ouvert, mais vraiment, que c'est un rayonnement qui peut aller très loin autour de lui, qui va influencer les gens autour, même à leur insu, positivement, tu sais, comme mettre dans un état d'harmonie. Et puis j'ai rencontré des grands maîtres, des gens vraiment éveillés dans ma vie, puis je me souviens que parfois, j'étais même pas encore en présence, puis je sentais tellement un apaisement, une joie, où tout d'un coup, je rencontrais la personne, puis je me sentais tellement... Mais des fois aussi, ces gens-là, ils peuvent nous ébranler un peu, tu sais, dans le sens qu'ils sont tellement authentiques que là, on voit tout, comment je dirais, les mécanismes de défense. Pour moi, l'ego, les mécanismes de défense, d'ailleurs, tu peux pas détruire rien, mais tu peux devenir conscient. Quand tu deviens conscient, la lumière de l'être brûle ces mécanismes-là. T'as pas besoin de les détruire parce que c'est comme le soleil.
Mais remarque que tu peux le faire, mais ça, là, tu tombes dans l'hindouisme. Et si tu veux vraiment le faire comme le Bouddha, tu dois sortir de la civilisation. Bouddha, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du monde. Bouddha est un ascète. Donc, pour quelqu'un qui veut vivre en société comme moi, si je détruis mon ego, ben, je détruis même la fondation de ma maison. Donc, impossible de vivre dans la société. Et finalement, je vais m'aliéner. Donc, je peux comprendre que certaines personnes aient le goût de le faire, mais ces personnes-là, s'ils veulent suivre cette voie du renoncement, devraient aller dans un couvent, aller dans des endroits où ils vont arrêter de parler.
Je connais des bouddhistes, moi, qui sont très intégrés à la société. Mathieu Ricard, il rencontre plein de monde. Il est très intégré, puis c'est un bouddhiste.
Ouais, mais il y a divers niveaux. Il n'y a jamais personne qui est complètement 100% quelque
Dalai
chose.
Lama, Dalai Lama, il est...
Comme je disais, moi, je suis...
Très public.
Je serais j'ai une philosophie occidentale à 90%, teintée bien sûr d'un certain pourcentage d'hindouisme, parce que j'ai trouvé des grandes choses dans cette philosophie. On va arrêter ici pour l'instant avec « Je dis M » par Mathieu Chédid, et puis on va revenir après avec ce thème « L'ego ne doit jamais être dit ».
Tantôt mobile, tantôt tranquille, je moissonne sans bousculade. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème, la haine je la jette. Je dis
retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « L'ego ne doit jamais être détruit ». Moi, on l'a compris déjà depuis le début, moi j'ai plutôt une attitude d'intégration que de coupure. Je crois que tout est dans l'ordre de ne rien rompre, autant en amour, en affaires, en tout. Moi, je m'efforce de ne jamais rompre, parce qu'une rupture, c'est toujours douloureux. Ça fait toujours mal et ça déchire quelque chose, ça brise quelque chose et ça te revient comme un élastique. Donc, au lieu de détruire l'ego, et je dois dire que je l'ai essayé, je l'ai tenté, je l'ai fait. Parce que à l'époque, quand j'avais 28 ans, j'étais obsédé par l'éveil. J'y pensais à tous les jours, j'y pensais toujours, j'ai beaucoup étudié le sujet. Tout ce que j'ai trouvé à ce moment-là, c'était tout ce qui est oriental, yoga, etc. Donc j'ai fait une pratique qui s'en allait dans ce sens-là. J'ai fermé l'ego peu à peu, j'ai fait de la méditation. J'ai utilisé beaucoup les drogues psychédéliques pour aller plus rapidement, pour fermer plus rapidement, et ça a fonctionné. Et à un point, Nicolas Hou a disparu. J'étais encore conscient. Alors j'ai compris que par-delà Nicolas Hou, il y avait la conscience, il y avait la non-dualité, parce que Nicolas Hou n'existait plus à ce moment-là. Sauf que oui, j'étais dans un bonheur absolu, l'état d'éveil, j'étais comme une balloune qui était un peu détachée parce que j'avais plus d'amis, j'avais pas de travail, j'avais pas d'argent, j'étais en danger. Et c'est là que j'ai compris, je ne peux pas travailler comme un oriental dans une société occidentale. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai écrit mon livre qui s'appelle « Le bonheur absolu ». Et c'est mon être qui m'a dit, j'ai commencé à avoir une voix dans ma tête qui me disait « Là, c'est temps de revenir. Là. Reviens vers tes frères. » Ça me disait « Va dans les bars, fais ci, rencontre telle personne. » Et j'ai commencé le retour à la réalité. Et c'est là que j'ai compris que si je voulais vraiment vivre l'éveil, dans le monde aujourd'hui, je devais l'aimer, mon ego, Nicolas Hou, je devais le réactiver.
Parce que l'universel, cette énergie universelle, elle se retrouve dans tout. Alors, elle va se retrouver dans les tâches quotidiennes, dans les endroits quotidiens. Elle ne se cache pas dans une montagne ou dans les Himalayas, là, au Népal ou quelque chose comme ça. Là, ça ne va pas se cacher là. C'est universel, d'ailleurs, le voyage au Népal que j'ai fait. On parlait de Népal, moi et Linda, tantôt, parce qu'on a tous les deux visité. C'est une des leçons que moi j'en ai tirées, c'était que j'avais pas besoin d'être là pour comprendre. La raison, c'est que ça s'est fait avec une réalisation. Puis là, il faut dire que j'étais un jeune homme là, quand j'étais là. J'étais pas mal d'années. Et j'ai vu des enfants rire, des enfants pleurer. Puis c'est ça qui m'a donné la compréhension de l'universalité de tout, que c'était pas nécessaire d'être ailleurs pour voir des choses qui sont pareilles comme chez moi. C'est pour faire une histoire courte. Mais c'est ça. Donc, je me souviens plus qu'est-ce que je suis en train de dire.
Moi, dans la mesure où l'ego ne me fait pas souffrir, je veux bien la garder. Mais quand je reviens toujours à quand c'est l'ego qui veut toujours avoir raison, parce que moi, je suis quelqu'un qui a du caractère, puis qui, souvent, j'ai le goût d'avoir le dernier mot, souvent, et souvent, ça fait des conflits. Alors, si c'est ça l'ego, puis que ça me rend malheureuse et ça me fait faire des conflits. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup à mettre de l'eau dans mon vin et ne pas nécessairement toujours avoir le dernier mot. Et si c'est ça, ben laisser l'ego de côté, ben tant mieux. Je veux dire, j'en ai pas besoin tout le temps de mon ego.
Mais c'est pour ça que tantôt je parlais d'un cheval sauvage, par exemple. Ça fait appel à un dressage, à un assouplissement, oui. Une éducation.
Oui.
On doit s'éduquer soi-même à même nos travers. J'ai des obsessions, j'ai des parties de moi qui sont complètement folles, mais je les arnache, je m'en sers au lieu de les réduire, me dire que je suis un trou de cul, que je suis ci, que je ne pourrais jamais faire ça. Non, j'utilise cette folie. Que si elle n'était pas utilisée, oui, je pourrais être quelqu'un de très dangereux si j'avais pas de l'écriture, l'art dans ma vie qui permette d'évacuer au fur et à mesure les tensions.
Oui, et tout à l'heure, quand je disais détruire, c'est vrai que, à bien y penser, c'est peut-être pas une bonne idée de détruire. Ça serait peut-être une bonne idée de l'accueillir, de la regarder, de la laisser passer un peu comme quand on médite puis qu'on a des idées, on les accueille, on les laisse passer. Puis à un moment donné, ça passe et ça s'en va et ça a fait ça.
Faire l'amour avec toi-même. En fait, l'amour.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Oui.
Dans mes nombreuses méditations. L'ego se situe quand on se promène du passé vers le futur. Donc, quand on est ici maintenant, dans le moment présent, il n'y a pas d'ego. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que l'ego, tu ne peux pas le détruire pour une raison simple. Je ne sais pas si vous allez l'aimer, mais je vais vous le dire. C'est parce qu'il n'existe pas. C'est une illusion. C'est un combat qui est livré à l'intérieur de nous. Et on va vers le passé parce qu'on ne veut pas le répéter. Mm-hmm. On va se rappeler de nos expériences antérieures. « Ah, mon Dieu, j'aurais donc pas dû » ou « Ah, ou je regrette, c'est déjà terminé » ou des choses comme ça. Puis ça, c'est sûr que c'est profond, ce que je dis là. Ça se fait pas comme ça. Et j'ai vu une émission cette semaine, un peuple qui s'appelle les Piranhas, et dans leur langage, ils ne comptent pas. Les chiffres n'existent pas et le passé, le futur n'existent pas. Ils sont toujours au moment présent et ces gens sont heureux, ça n'a pas de bon sens. Je vais mettre probablement un lien sur ma page, est-ce que je peux dire mon site? Bon, mon site, moi, c'est Linda avec un Y, René2E.com. Puis il va y avoir aussi autre chose bientôt, là, mais en tout cas, en attendant. Et j'ai été impressionnée parce qu'ils parlent des mères là-dedans, les mères, là, des mamans. Elles ne savent pas combien elles ont d'enfants. Mais elles les aiment tous. Imagine-toi, l'amour se situe en dehors de l'analyse. Et ça, c'est un peuple unique. C'est la seule peuple en Amazonie qui ont résisté. Puis là, ça a l'air qu'il y a bien des linguistes qui sont tellement chavirés par ces gens-là qu'ils veulent aller les, en guillemets, évangéliser.
Mais est-ce que c'est les Zoé?
Non, c'est les Piranhas.
Okay. Parce qu'il y a un autre peuple comme ça, qui s'appelle les Zoé, sont aussi dans la même latitude où ils vivent nus, ils ne travaillent pas plus que 2 heures par jour. Heureux, on s'y sont reconnus comme étant très, très heureux.
Non, eux autres, ils ne vivent pas nus, mais ils n'ont pas de temps. Le temps, comme le passé, le futur, ça n'existe pas. Puis il n'y a pas de chiffres. Fait que quand ils disaient ça, Puis il y avait un gars qui était un prêtre dans le temps, il est allé là pour les évangéliser. Et puis c'est eux qui l'ont eu, mais ils ne l'ont pas eu parce qu'ils voulaient. Il a compris quelque chose. Et puis là, sa femme s'est séparée de lui, elle était chrétienne, puis elle l'a tellement bouleversée qu'elle s'est séparée de lui. Mais je l'ai regardé, je sais qu'il ne passe plus à Télé-Québec, mais si vous vous trouvez sur Google, peut-être le Piranha, le peuple, ça s'appelle la grammaire du bonheur. Imaginez, la grammaire du bonheur, parce qu'on parle du bonheur. Et j'ai regardé ça, puis pendant un moment, parce que je suis comme tout le monde, j'ai mes inquiétudes, puis à un moment donné, je me disais, puis si t'étais juste ici maintenant, ce serait comment?
Si l'ego, c'est une partie de nous qui est un peu la résistance, le caractère, moi, un truc que j'ai déjà fait, je me rappelle, quand je faisais de la musique, j'avais un personnage, Cola, et puis j'avais fait une série de ma personnalité, donc qu'est-ce qui le personnalise, et j'avais des défauts aussi, donc, et comment je pouvais utiliser ces défauts-là, un peu comme dans le cinéma ou un personnage, donc c'est de... Est-ce qu'il y a des parties de toi qui sont... tu sais, un peu comme si tu tombes malade, comment utiliser ta maladie? Au lieu de la dénigrer, d'être choqué, d'être fâché après tout le monde, est-ce que tu ne peux pas l'accepter tout simplement et l'accueillir et essayer de comprendre pourquoi tu es malade? Un peu la même chose. Pourquoi, par exemple, moi aussi j'ai des parties de ma personnalité, je suis très intransigeant envers moi-même, mais finalement je le suis envers beaucoup les gens qui m'entourent. Et parfois c'est difficile, il y a des moments dans ma vie où je me suis retrouvé seul. Mais je me dis... OK, à quoi ça me sert? Cette intransigeance qui fait que parfois j'ai moins d'amis que les autres fait peut-être en même temps que j'ai une œuvre. Je suis rendu à maintenant à près d'une quinzaine de livres, une centaine de toiles. J'ai fait près de 400 spectacles. Donc, cette intransigeance, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Et il faut savoir justement l'arnacher pour pas le revirer contre moi. Et c'est avec l'âge que j'apprends à l'utiliser, mais ça revient des fois au galop. Des fois, le cheval sauvage revient sauvage. Et c'est pas mauvais non plus. Et c'est là que moi, je pense qu'il faut savoir aussi trouver la beauté dans même les parties les plus abjectes de ta personnalité, parce que c'est toi. C'est ce que tu es. Et puis, c'est ce que le monde est aussi. Le monde n'est pas très beau, hein, présentement, sur la Terre. C'est pas très beau. Et c'est sûr que ça se répercute sur la personnalité.
Oui, puis il y a une autre dimension qu'on n'a pas parlé. C'est tout l'aspect que, tu sais, l'univers, la société, tu sais, moi, on est dans un univers planétaire de domination puis de contrôle. C'est ma perspective après ma recherche depuis des années. Donc, on n'a pas quelqu'un ici qui va te rendre la vie facile, qui va pouvoir, même si les conditions, la technologie puis la maturité technologique le permettraient, que ce soit de l'électricité gratuite pour tous, que ce soit du logement pour tous couvert, et que ce soit quoi que ce soit, toutes ces choses-là seraient disponibles si on aurait l'intention et le désir pour ça. Mais il y a vraiment le désir de maintenir un contrôle puis une domination sur l'ensemble des êtres humains. Et à cause de ça, on fait face à beaucoup de choses, beaucoup de défis qui vont faire mouler ta personnalité avec les choses qu'on découvre des fois qui sont l'aspect négatif. Donc, il faut considérer ça dans l'objectif de toutes ces choses-là. C'est pas un cadeau donné de venir au monde sur la Terre. C'est pas quelque chose qui est il appelle ça en anglais « a walk in the park ».
D'ailleurs, Gurdjieff appelait la planète Terre la sainte planète du purgatoire.
Donc, avec le système qu'on a et puis tout le gouvernement, tout ça, on a besoin de notre ego. Parce que sinon, on se ferait piétiner puis ça n'aurait pas de bon sens. Fait que gardons notre ego et puis essayons de dealer avec. Puis au niveau spirituel, ben là, il faut peut-être en avoir un peu moins quand on rentre dans nos histoires de spirituel. Ouais,
par exemple, tu vois les étudiants présentement qui se lèvent debout. Dans les médias, ils se font taper dessus, c'est la merde, ils dérangent tout le monde. Mais ces jeunes-là, ils ont le droit de se lever debout pour se braquer contre un système qui est complètement abusif. Mais tout ce qui est autour, tous les médias vont complètement les banaliser. On envoie les chiens de garde qui vont les battre. Et si tu regardes les médias, rarement tu vas voir des choses positives à ces choses-là. Les vraies bonnes choses, comme on parle de WikiLeaks, on n'en parle plus dans les médias. Cette personne-là, ce regroupement-là fait quelque chose d'admirable. Mais bon, malheureusement, on pourrait en parler encore plus. C'est la fin de l'émission. On va finir avec une chanson de Nano qui s'appelle « Parce que je m'aime ». ». Parce que je m'aime. Eh bien, merci à tous d'avoir été à l'écoute de Propos sur le bonheur. Je vous souhaite bonne semaine à tous.
Bonne semaine et bon week-end.
Bonne semaine, merci.
Puis je vous invite à venir écouter nos émissions sur propossurlebonheur.com.
Passer ma mémoire, mes douleurs, mes abîmes, mes amours légitimes. Prends garde, parce que je m'aime, je resterai moi-même. Ce n'est pas pour tes beaux yeux que je changerai mon jeu. Parce que je m'aime, je serai fidèle. Ce n'est pas ta faute. Je ne suis qu'une image, un fantasme, un mirage. Oublie-moi pour une autre. Mes désirs sont les vôtres. Écoute les signes, mais ne franchis pas la ligne. Tu